Bonjour Philippe Poutou.
Bonjour.
Candidat à la présidentielle au nom du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. C'est la troisième fois que vous vous présentez lors des deux précédents scrutins en 2012 puis 2017. Vous aviez recueilli à peine plus de 1% des voix. On avait cru comprendre qu'on ne vous y reprendrait plus. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?
Ah, vous avez bien compris, oui, c'était pas prévu comme ça. Et on a discuté, parce que en fait, je représente le nouveau parti anticapitaliste. Et puis, on s'est dit qu'il valait mieux que ce soit un visage déjà connu, déjà installé dans le paysage politique, avec une certaine légitimité. Bon, voilà, et ça nous simplifie la tâche, notamment par rapport à la question des parrainages, puisque c'est quand même l'actualité du moment pour nous, puisqu'on est dans la dernière ligne droite. On en est à 250 promesses. Il faut absolument atteindre les 500 parrainages.
Donc, sur les signatures, vous avez une confiance ce matin sur
On peut pas avoir confiance parce qu'on maîtrise pas tout le processus, mais on est comme il y a 5 ans, donc on se dit qu'on va y arriver, mais en fait on n'est pas sûr d'y arriver. Donc c'est ça le problème, c'est que il faut qu'on arrive à convaincre les élus de nous parrainer, parce que il faut les convaincre qu'on est utile et légitime au débat politique. Tout ça c'est important, et c'est vrai qu'un visage connu, ça a aidé. Donc voilà, on sait que ça nous aide, on sait que ça compte. Les élus me connaissent. Bon, voilà. Donc du coup là on est dans une sorte de course de vitesse pour y arriver, parce qu'il faut absolument qu'on soit présent. Enfin, nous on y tient vraiment d'être présent dans la phase finale.
Et la clôture des signatures, les parrainages, c'est dans moins
c'est
de 5
semaines.
Ouais,
c'est le 4 mars, ouais, ça va aller très vite. Ouais.
Vous êtes d'ailleurs sans grande conviction envers le processus de l'élection présidentielle. Vous prenez surtout un sursaut populaire dans la rue. La rue, d'abord, avant les urnes, c'est votre prisme ?
D'abord, c'est nous on pense que ce qui peut changer radicalement la vie ou la société, ce sont les luttes sociales, c'est les mobilisations populaires, c'est d'ailleurs l'histoire le montre aussi, quoi. Et l'élection pour nous, ça a été souvent des choses piégeuses, quoi. On l'a vu, et puis notamment quand la gauche est arrivée au pouvoir, il y a eu de l'espoir plus ou moins, puis à chaque fois la gauche elle a renié, elle a trahi. En fait, la gauche est de gauche pendant les campagnes électorales et elle est de droite quand elle est au pouvoir. Donc du coup, nous c'est ces problèmes-là qu'on voudrait poser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on le voit, on est dans une société de plus en plus violente, de plus en plus inégalitaire. C'est une société capitaliste où les riches, les ultra-riches, ils ont un pouvoir énorme. Et nous, on se dit que pour changer ça, c'est une question de rapport de force dans la société. Donc c'est une question de mobilisation, des gens qui prennent leurs affaires en main, qui se battent, qui s'organisent. Bon, et c'est ça qu'on veut montrer, quoi.
Sur le sens de votre candidature, c'est donc d'abord une candidature de témoignage.
Non, mais même pas, parce que c'est pas du témoignage. Bon, évidemment, on va témoigner de rendre visible, en fait, un camp social qui est pas visible, relayer des luttes sociales. Bon, ça, d'une certaine manière, c'est peut-être un peu du témoignage. Encore que, on est des militants. En fait, c'est un combat, on veut faire exister des idées de révolte contre ce système-là et combattre la résignation, combattre aussi cette idéologie dominante qui veut nous faire croire que la meilleure façon la seule chose qu'on a à faire, c'est de fermer sa gueule, et donc de dénoncer ces logiques capitalistes et de montrer qu'en fait, la seule issue qu'on a en réalité, la seule issue raisonnable, c'est de sortir de ce système et d'arriver à discuter d'une société solidaire où on socialise l'économie, où on exproprie les grandes richesses et les grandes entreprises pour arriver à faire construire des outils publics, une société qui service de la population. Et ça, ce sont des combats sociaux. Et c'est ça qu'on veut expliquer. Donc on est au-delà du témoignage. En fait, c'est un acte militant et d'essayer de redonner confiance aux gens et qu'on arrive à réimpulser une dynamique du côté du mouvement social.
On va s'intéresser dans un instant à votre programme. Juste l'actualité de ce soir, ce sera la primaire populaire avec les résultats attendus autour de 19h. Près de 500 000 Français qui se sont inscrits pour participer à ce scrutin ouvert depuis jeudi dernier. Pour une candidature unique de la gauche. Vous ne faites pas partie de ce processus. Rappelez-nous pourquoi votre nom n'a pas été retenu dans la liste des candidats.
Ils ont fait une présélection et donc on est arrivé, je crois, ils ont pris les 5 premières femmes et les 5 premiers hommes. Mecs. Et du coup, moi, j'étais classé un peu derrière, mais nous, on n'a pas demandé à y participer, parce qu'en fait, autant on peut aspirer, on peut partager, c'est une aspiration unitaire, parce que c'est vrai que c'est l'élection.
Et citoyenne.
Parce que l'élection qui arrive, elle est hyper flippante, en fait. Le deuxième tour, c'est la droite et l'extrême droite, et en fait, on voit qu'il n'y a pas de solution pour nous, donc
mais
on est en danger.
Mais vous ne souhaitiez pas y participer, pourquoi?
Non, mais alors, donc j'explique, donc on partage l'aspiration unitaire, mais en même temps, on a envie de discuter de quelle gauche on discute. Parce que si c'est pour avoir Taubira, qui était avec Macron, avec Valls, qui a soutenu la loi travail, contre laquelle nous on s'est battu. C'est discuter de cette gauche qui a trahi, et puis à côté de ça, de quelle gauche on a besoin. Et nous on pense qu'on a besoin effectivement d'une gauche, mais d'une gauche de combat, une gauche de lutte, qui se préoccupe justement des mobilisations sociales et avec un programme radical anticapitaliste. Donc du coup c'est ça qu'on va discuter, c'est qu'en fait l'unité oui, mais où et avec qui. Donc du coup pour nous l'unité c'est important, notamment dans les mobilisations sociales, et puis d'arriver à se retrouver avec les forces militantes de gauche et de voir comment on peut changer les choses. Parce que là on est dans une élection, mais si la droite gagne par exemple, qu'est-ce qu'on fait après, comment on se défend, comment on essaie de changer les choses, comment on défend nos salaires, les services publics et tout ça. Donc du coup, c'est au-delà même de l'élection. Et donc c'est pour ça que oui, la primaire, elle pose pas tous ces problèmes-là. Il n'y a pas de débat, c'est l'unité comme ça. Et puis en plus, on risque d'avoir encore une fois une Taubira qui peut pas représenter la gauche. C'est pas possible.
Bon, c'est-à-dire qu'à gauche. À vos yeux, cette primaire populaire, elle n'est qu'une chambre d'enregistrement pour la candidature Taubira?
Ben, on verra bien le résultat, hein, mais oui, ça peut être ça, on sait pas. De toute façon, bon, après, non, la préoccupation, de toute façon, de toutes celles et ceux qui ont organisé la primaire, ils ont une préoccupation réellement sincère, certainement, unitaire, mais voilà, nous, on pense que, ben, on s'en sort pas comme ça, quoi.
Ça dit 467 000 inscrits. Est-ce que ça ne donne pas tout de même une légitimité au candidat qui va émerger ce soir, ou la candidate?
Effectivement, ça montre qu'il y a une vraie aspiration. Enfin, ils sont pas contents de la situation. C'est vrai que la gauche telle qu'elle est aujourd'hui, et encore la gauche, des fois il faut prendre le mot avec des pincettes parce qu'il y a tout et n'importe quoi un peu dans l'étiquette de gauche aujourd'hui. Mais c'est vrai que voilà, c'est là.
C'est-à-dire, il y a tout et n'importe quoi à gauche, c'est-à-dire.
Mais là, ce que je vous disais, c'est que celles et ceux qui ont gouverné avec Hollande, nous, pour nous, c'est plus la gauche. Le PS, c'est plus la gauche. On peut pas discuter de la gauche sans rappeler que il y a pas si longtemps que ça, la gauche, elle a fracassé le mouvement social, elle a attaqué les droits, le code du travail, et puis même par rapport aux migrants, la gauche, elle est même pas capable d'avoir une politique d'accueil, une politique solidaire. Donc du coup, la gauche, c'est quoi? Enfin, c'est ça. Nous, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'il y en a ras-le-bol de cette gauche-là, de pouvoir institutionnel. Et même aujourd'hui, la gauche, c'est pas juste les gouvernements, c'est dans les départements, c'est dans les régions. Il y a quand même pas mal de choses qui sont sous contrôle de la gauche. Et elle fait quoi de différent par rapport aux politiques libérales? En fait, la gauche, dès qu'elle est au pouvoir, elle s'intègre, elle s'installe très facilement et elle intègre les politiques ultralibérales. Donc nous, du coup, c'est justement ça qu'on va discuter. On a besoin de quoi aujourd'hui? On a besoin d'outils pour se battre. On a besoin d'une gauche qui est beaucoup plus combative et donc oui, qui est sur des bases anticapitalistes.
La gauche n'est plus assez à gauche, dites-vous. Vous qui ambitionnez de révolutionner les institutions et aussi les logiques économiques, quel combat avez-vous mené, voire remporté à Bordeaux depuis un an et demi que vous êtes élu municipal?
Ah ben là, on n'est pas dans une situation de rapport de force favorable, mais bon, on est trois élus et puis c'est de faire entendre, quoi. Déjà, faire entendre, faire exister. Encore une fois, un peu comme une présidentielle, en fait. On est là et on est dans un monde politicien qui est complètement déconnecté des problèmes de l'ensemble de la population. C'est un milieu social, d'ailleurs, en règle générale, qui est élu et qui est pas le nôtre. Et donc, du coup, c'est important d'être là pour rappeler qu'il y a une misère sociale, pour rappeler qu'il y a du chômage, de la précarité, pour rappeler qu'il faut la gratuité des transports, qu'il faut un service public du logement. Enfin, on essaie, nous, à chaque fois, de rappeler ce que ça voudrait dire une politique de gauche, en fait. Mais une politique de gauche, c'est une confrontation avec la classe qui possède et qui concentre toutes les richesses et puis qui se moque éperdument des intérêts de la population. Donc, c'est notre boulot, il est un peu là aujourd'hui. Alors, on essaie de titiller, évidemment, parce qu'à Bordeaux et à la métropole, c'est la gauche qui est au pouvoir. On essaie de les titiller, on essaie de bousculer un peu tout ça. Bon, alors, de ce point de vue-là, on a certainement pas de victoire. Mais au moins, on fait exister quelque chose et puis on pense qu'on favorise quelques discussions, quelques débats.
Philippe Poutou, votre programme dit de rupture avec le SMIC à 1800 euros net, le temps de travail à 32 heures, retraite à 60 ans, un revenu d'autonomie pour tous les jeunes de 16 à 25 ans, à combien ce revenu?
Nous, on est proche de l'idée du SMIC. En fait, nous, le problème qu'on pose, c'est qu'en fait, toutes les personnes, quelles qu'elles soient, elles aient un revenu qui leur permette de vivre décemment. Voilà, nous, on pense que le revenu décent aujourd'hui, c'est 1800 euros. En dessous de 1800 euros, on peut pas vivre correctement. Donc, du coup, c'est de discuter de ça, de cette légitimité-là, quoi. On peut quand même poser le problème d'une société riche comme la nôtre, une société où il y a tout ce qu'il faut, qu'au moins soit garantie la décence de la vie pour les gens. Et donc tout est lié par rapport à ça. Donc on sait que ça pose le problème de la répartition des richesses ou de la redistribution des richesses, parce que c'est pas le tout de constater qu'il y a des richesses, mais comment on fait pour que les gens puissent avoir leur part. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on discute beaucoup de confrontation et notamment de fiscalité pour faire payer les riches, mais
justement,
même temps d'expropriation et de socialisation.
J'allais y venir. Accès gratuit au transport public et écrivez-vous socialisation des banques privées. Exit donc tout profit, toute recherche de rentabilité. Vous au pouvoir, Philippe Poutou, tout est redistribué comment? Tout est fléché vers quoi?
Nous, déjà, c'est l'idée de la socialisation du système bancaire. Là, c'est fondamental parce qu'en fait, c'est l'outil économique un peu qui fait tout fonctionner. Donc, du coup, il faut que ce soit complètement socialisé, mais socialisé dans le sens où c'est sous contrôle des salariés avec une véritable transparence. En fait, ça permettrait justement d'éviter l'organisation de l'évasion fiscale parce que ça passe quand même essentiellement par le système bancaire. Et puis, c'est l'idée de rendre un outil économique à disposition de la population et pas à disposition des ultra-riches qui investissent un peu comme ils veulent et tout ça. Donc il y a ça pour nous qui est fondamental. Après, effectivement, on pose le problème de la socialisation du secteur de l'énergie. Donc ça passe par des expropriations. En fait, l'idée, c'est de reconstruire les services publics, de remettre en place des outils publics au service de la population, sous contrôle des salariés de la population. Parce qu'on voit que les logiques capitalistes, c'est à l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, quand les patrons, ils ont la main, quand les capitalistes, ils ont la main, eh ben, ils se servent de l'économie pour remplir leurs poches, pour s'enrichir. Et on le voit aujourd'hui, y compris à travers le rapport de l'ONG Oxfam, où les 43 milliardaires de France ont capté 236 milliards en 19 mois de crise sanitaire. Donc on voit que ce système-là, il est complètement dingue. Concentration de richesses d'un côté et développement de la pauvreté de l'autre côté. Donc du coup, il faut changer le système. Et ça passe effectivement par ces réponses-là. C'est sortir donc des logiques capitalistes. Alors on n'est pas dingue, hein. On sait que ça pose le problème d'un rapport de force. C'est pas juste un programme. C'est pas juste de dire, voilà, il faut ça. C'est comment derrière on peut l'imposer. Et l'imposer, ben, c'est là où on en revient à la première discussion. Il faut que des millions de gens s'occupent de leur vie, se battent, descendent dans la rue, fassent grève. Et nous, on est dans cette idée-là de rapport de force qui peut changer complètement la société.
Sortir du capitalisme, sortir du nucléaire également chez NPA. Vous voulez arrêter le nucléaire en 10 ans seulement, c'est-à-dire autour de 2030. Comment vous y prenez-vous ?
Mais là, on reprend tout le boulot qui est fait par des associations et des collectifs qui sont dans la lutte anti-nucléaire. Donc, on sait très bien que le nucléaire, ça s'éteint pas comme ça du jour au lendemain.
Mais 10 ans, c'est très court. Quand même.
Ouais, c'est court, mais
les experts d'ailleurs sont
après,
revenus.
Après, c'est des décisions politiques, mais bon, il y a des tas de pays qui l'enclenchent de fait. Et en fait, l'énergie nucléaire, après, le problème, c'est que c'est pas si simple que ça d'en sortir, malheureusement, parce qu'il y a l'histoire des déchets nucléaires. Et alors là, on en a pour des siècles. De toute façon, les générations futures, elles vont avoir des emmerdes avec ça. Mais donc, c'est pas simple. Mais après, la question qui est posée, c'est que c'est une énergie ultra dangereuse. Donc, du coup, bah, soit on pose le problème de l'avenir de l'humanité, puis on essaie de voir quelles solutions on a. Mais c'est comme les énergies fossiles. La plupart des gens aujourd'hui commencent à comprendre qu'il vaut mieux en sortir, même si c'est assez hypocrite. Parce que t'as les grosses multinationales qui continuent comme avant avec les gazoducs, les oléoducs et tout ça. Mais donc, en fait, on a des énergies dangereuses et on sait qu'on va dans une situation catastrophique pour la planète. Donc, quelle solution on a ? Ben oui, il faut sortir de ces énergies-là.
Sortir, mais comment vous remplacez le nucléaire par quoi ?
Et ben après, il y a les énergies renouvelables et on sait que ça, évidemment, ça répond pas complètement puisque le nucléaire c'est peut-être le plus efficace. Encore une fois, le nucléaire se pose en France beaucoup différemment que dans des tas d'autres pays. Mais nous, après, c'est la réorganisation de la société parce qu'il y a beaucoup de gaspillage, les transports, c'est tout est aberrant, les délocalisations, il y a des centaines de milliers de kilomètres qui sont faits par des marchandises, alors on pourrait faire complètement autrement. Il y a des tas de moyens aujourd'hui d'économiser l'énergie et de faire en sorte que cette société-là soit moins folle. Donc du coup, oui, c'est la réorganisation de cette économie et c'est pour ça que ça pose les problèmes d'empêcher les capitalistes de nuire et donc du coup de trouver un autre fonctionnement économique.
Hein. Je reviens sur la date de 2030 pour fermer, selon vous, le dernier réacteur en France. Même les experts disent que c'est un peu court, ce sera pas possible, disent-ils. Je me fie à l'association Negawatt, que vous connaissez sûrement, et qui travaille depuis 20 ans pour une transition énergétique sans énergie nucléaire. Au mieux, pas avant 2045-2050, disent-ils. Même Jean-Luc Mélenchon, qui avait fait le même choix que vous, revient sur cette échéance.
Non, mais 10, 20, 30 ans, après il y a des polémiques et des disputes entre différents collectifs, mais l'idée c'est de sortir du nucléaire, de faire ce choix politique-là, après on le fait le plus vite possible, et donc évidemment, parce qu'en fait, même là, les discussions sont toujours compliquées parce que la question des déchets nucléaires, c'est pas 10, 20, 30 ans, c'est 100, 200, 300, 1000 ans. Donc, du coup, ça dépend de quoi on discute dans l'histoire du nucléaire. Mais là, aujourd'hui, oui, c'est au moins de prendre conscience que cette énergie-là est dangereuse et qu'il faut trouver un procédé pour en sortir le plus rapidement possible. Et donc, nous, on est effectivement sur les schémas les plus rapides possibles. Après, ça dépend pour beaucoup, de comment ça se passe, qui c'est qui s'investit là-dedans et tout ça. Mais c'est un choix politique de fond.
Le gouvernement, à propos du chômage, qui vante ses bons résultats, dit-il, sur le front du chômage, à son plus bas niveau depuis 10 ans. Il y a aussi l'économie qui semble repartir, la croissance qui montre de bons signaux. Dites-vous aussi que ce sont de bons résultats, finalement?
Non, parce qu'après, c'est toujours le même problème des chiffres du chômage depuis des tas d'années. C'est qu'en fait, on regarde catégorie A, B, C, voilà, le total.
Alors, ce sont les chiffres de l'INSEE, là.
Oui, mais les catégories qui diminuent, évidemment. Mais après, il faut discuter de la réalité sociale. La réalité sociale, c'est qu'il y a une aggravation de la précarité et des petits boulots. Donc, en fait, on bascule d'une catégorie à une autre. Et après, il y a l'autre chose, c'est comment ça peut jouer sur les chiffres en radiant, parce qu'il y a quand même pas mal de chômeurs qui sont sortis des inscriptions de Pôle emploi, qui se réinscrivent. Donc du coup, ces chiffres-là, ils sont toujours un peu discutables, mais ce qu'on sait en réalité, c'est que la pauvreté augmente. C'est encore une fois le rapport Oxfam, même s'il n'y a pas une explosion aujourd'hui de la population qui se retrouve en dessous du seuil de pauvreté, parce qu'il reste toujours à 14-6%.
C'est à peu près le même chiffre depuis 2019.
9-10 millions de personnes. Mais ce qu'explique le rapport Oxfam et ce qu'explique que des l'état d'études, c'est qu'on est dans une généralisation de la pauvreté très inquiétante. La crise sanitaire, elle amplifie ce processus-là. Donc du coup, quand on discute le chômage, il y a un peu moins de chômeurs et tout ça, en réalité, là, globalement, les boulots sont de moins en moins payés, de moins en moins stables, et du coup, il y a vraiment un appauvrissement de la population.
Vous évoquiez la crise sanitaire. Le quoi qu'il en coûte, qui a sauvé les entreprises et les emplois, qu'auriez-vous fait de différent si vous aviez été au pouvoir?
Ah ben là, c'est le problème de comment l'argent, où va l'argent? Ben encore une fois,
on a fait de la dette. On a fait de la dette.
Oxfam raconte que les 236 milliards captés par les plus riches, c'est essentiellement tous les plans d'aide publique qui ont été captés par cela. Donc du coup, les réponses qu'il y avait, ben c'était déjà préserver les emplois, stopper tous les plans de licenciement, stopper tous les plans de suppression d'emplois, préserver justement tous les aspects sociaux. Et puis c'est la question des services publics. En pleine crise sanitaire, il est complètement aberrant aujourd'hui qu'on continue à enregistrer les suppression de lits dans les hôpitaux et qu'il n'y a pas une politique d'urgence qui permette de redonner des moyens à tout le service public de santé, y compris mettre en place des dispensaires de santé, reconstruire des lieux de santé dans les zones rurales ou dans les quartiers populaires, d'une part, et puis on le voit dans l'éducation nationale, c'est complètement scandaleux aujourd'hui de ne pas avoir eu un plan de recrutement, de donner des moyens aux enseignants et au personnel adulte dans les écoles.
Ce sont des promesses faites aujourd'hui.
Voilà, donc du coup, il y avait des tas de choses différentes à faire et ça n'a pas été fait, mais c'est aussi la question de rompre avec les logiques de marchandisation, de privatisation et de redonner des moyens à des services publics.
Philippe Poutou, candidat à l'élection présidentielle, un mot de politique étrangère. La France a-t-elle raison d'envisager un déploiement des troupes en Roumanie, pays frontalier de l'Ukraine, dans ce contexte de tension avec la Russie?
Nous, on a une expérience des interventions militaires qui sont toujours justifiées au nom des peuples, à l'intérêt des peuples, à la défense des peuples, et puis avec des situations catastrophiques qu'on a vues avec l'Afghanistan il n'y a pas longtemps, on voit avec le Mali. Donc évidemment, nous, on est contre les interventions militaires parce qu'elles ne se font pas pour défendre les peuples, elles se font dans des logiques de rivalité, de stratégie politique.
C'est-à-dire qu'il faut laisser la centaine de milliers de soldats russes se presser à la frontière ukrainienne?
Non, c'est pas ça qu'on dit, c'est qu'en fait, on a un monde de bourrés, de salauds, de part et d'autre. Donc on a d'un côté les Poutine et les Russes, d'un autre côté les Biden, on a l'OTAN. On voit bien que tout ça, c'est des rivalités politique et stratégique. Donc nous, on pense qu'il faut, il faut que les peuples se défendent. Alors c'est facile à dire comme ça, mais on est pour une mobilisation populaire. L'indépendance de l'Ukraine, c'est fondamental. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a des liens avec des camarades en Ukraine qui se posent le problème d'une politique contre la guerre qui avance et puis de comment la population défend ses propres intérêts face à des dirigeants de part et d'autre qui font une politique sur leur dos en permanence.
Eh bien, merci Philippe Poutou d'être venu défendre ses points de vue.
Merci à vous.
Ce matin, candidat du nouveau parti anticapitaliste à l'élection présidentielle. Merci Philippe Poutou et bonne journée.
Merci.